Microcité, une émission de l'école de journalisme de Grenoble, 16h30-17h, sur Campus Grenoble 90.8. Claire Dédon.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Microcité, déjà le 14e mais surtout le dernier. Et oui, cette saison 2019-2020 est déjà finie, mais attendez, ne partez pas tout de suite, il nous reste encore une dernière demi-heure à passer ensemble. Et bien sûr, on vous réserve un programme de qualité, le format reste le même. Dans quelques minutes, on retrouve Adrien Beaujean pour un dossier sur les mèmes. Vous ne savez peut-être pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Si ça ne vous dit toujours rien, restez un peu, vous saurez tout grâce à nos deux invités en studio. Et le long format est à retrouver en fin d'émission, comme d'habitude. Paul Tillier a fait le point sur la progression de notre équipe. Microcité, épisode 14, c'est parti. Mais tout de suite, le point sur l'information avec Antoine Loistron. Bonjour Antoine.
Bonjour Claire, bonjour à tous. Plus que 6 heures avant l'arrêt du premier réacteur de la centrale de Fessenheim, c'est la première étape du démantèlement. Le Kino débarque à Grenoble, on découvre ce mouvement de cinéma participatif dans quelques minutes. Depuis 10 jours, les Français brillent aux mondiaux de biathlon, de quoi donner envie aux enfants de découvrir ce sport. Reportage.
Il est 16h31, le journal avec Antoine Loistron.
La plus vieille centrale de France va fermer. Dans la nuit, le réacteur numéro 1 de Fessenheim va s'arrêter. Le deuxième suivra le 30 juin. C'est une page qui se tourne après plusieurs années de débats. Mais pourtant, l'histoire n'est pas encore terminée. Margot Siffert, ce n'est que le début d'un long processus de démantèlement.
Et oui Antoine, c'est un chantier titanesque qui débute demain pour les équipes d'EDF. L'entreprise va mettre entre 20 et 25 ans, pas moins en tout cas pour démanteler complètement la centrale alsacienne de Fessenheim. La première phase va déjà durer 5 ans, or celle-ci consiste seulement à préparer la destruction du site. Pour ça, il va falloir évacuer les substances dangereuses et radioactives. Le combustible va donc être refroidi puis traité sur le site de la Hague d'ici 2023. Dès lors, tout risque d'accident industriel est écarté. Et c'est à ce moment-là seulement que les vrais travaux de démantèlement vont pouvoir débuter. Ils vont durer à peu près 15 ans à partir de la publication d'un décret en 2025. Tous les équipements et les bâtiments vont alors être démontés. Le réacteur isolé est placé sous surveillance. Quant à la cuve, elle sera découpée et enfuie à Bure dans la Meuse. Le coût de l'ensemble de l'opération est estimé entre 350 et 500 millions d'euros.
Ce matin, l'ONG Greenpeace a mené une action devant la centrale du Tricastin dans la Drôme pour réclamer son arrêt. 26 militants ont été interpellés pour s'être introduits sur le site. Emmanuel Macron salue un des serviteurs les plus passionnés de la République. Michel Charras est mort dans la nuit. Le ministre du budget de François Mitterrand avait 78 ans. Il avait notamment rétabli l'impôt de solidarité sur la fortune supprimé par Édouard Balladur. Sénateur pendant 24 ans, Michel Charras a aussi été maire de Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme de 1997 à 2010, année où il est nommé par Nicolas Sarkozy membre du Conseil constitutionnel.
Un ancien entraîneur de patinage mis en examen et écroué ce matin en région parisienne.
Il est soupçonné de viol et agression sexuelle sur 3 adolescentes qui l'entraînaient. Alors que depuis ce matin à Paris, les fédérations sportives sont réunies pour évoquer ces violences sexuelles dans le monde sportif. Une réunion à l'initiative de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Depuis plusieurs semaines, les accusations fleurissent, notamment dans le milieu du patinage. Elles ont poussé à la démission le président de la Fédération des Sports de Glace il y a 2 semaines. Roxana Maracineanu veut inciter le milieu sportif à être encore plus attentif, a été l'invité de RMC ce matin.
Je pense que le mouvement sportif ne mesure pas l'amplitude, le nombre de faits, la gravité des faits aujourd'hui. C'est aussi un moment où on va faire un état des lieux. C'est vrai que ce qu'on a vu dans les médias, entendu, lu, c'est de la partie émergée de l'iceberg. C'est beaucoup de courage pour ces victimes qui ont pris la parole, mais qui ont permis aussi de libérer la parole des autres personnes aujourd'hui qui s'adressent directement au ministère des Sports, qui s'adressent à leur fédération. Et on voit beaucoup de témoignages arriver. Le mouvement sportif aujourd'hui en est encore à se dire « préservons l'image du sport », alors que la priorité aujourd'hui, c'est d'entendre la parole des victimes. Il faut qu'on le fasse tous ensemble avec les élus des collectivités locales, avec le mouvement sportif, mais aussi avec les associations qui, sur le terrain, luttent au quotidien pour la protection de l'enfance.
Roxana Maracineanu, la ministre des Sports sur RMC ce matin. Après la réunion, les fédérations devront faire des propositions d'ici 3 mois.
Emmanuel Macron fait un geste envers les agriculteurs.
Oui, à la veille de l'ouverture du salon de l'agriculture à Paris, le chef de l'État a donné une interview à la presse régionale ce matin. Il annonce une aide de 25 millions d'euros pour le monde paysan. Elle servira à compenser les pertes liées à la mise en place des zones où l'usage de pesticides est interdit. Et dans le même temps, à Bruxelles, les 27 pays de l'Union européenne négocient le budget pour les 7 prochaines années. Principal poste de dépense, la politique agricole commune, la fameuse PAC. La France en est le premier bénéficiaire. Paris veut conserver ses avantages, mais doit faire face aux réticences d'autres pays. Trouver un accord sur le budget global d'ici ce soir semble le compromis, selon certains dirigeants. Une trentaine de Français placés en quarantaine dans un village vacances dans le Calvados. Ils sont arrivés en fin de matinée de Wuhan, la province chinoise épicentre du coronavirus. Dans l'avion également, 36 ressortissants européens pris en charge par leurs pays respectifs. Le virus a déjà fait plus de 2200 morts.
16h35, la suite du journal avec Antoine Loistron.
Faire du cinéma à pas cher en un mois et accessible à tous, c'est le principe du kino. Ce mouvement cinématographique participatif est déjà répandu dans le monde. Il s'installe à Grenoble. Hier, c'était la soirée de lancement. Alors, Julia Beaufils, Kino Grenoble, qu'est-ce que c'est ?
Le mouvement Kino, selon Lionel Comédien, c'est d'abord une soirée mensuelle de rencontres entre passionnés de ciné.
C'est des pros, c'est des semi-pros, c'est des gens qui se lancent dans l'aventure, qui ont envie d'essayer, donc c'est ouvert à tout le monde.
Et ça, c'est top.
Des rencontres autour d'un objectif, faire un film avec les moyens du bord. Léa fait ses débuts dans le 7e art, elle explique le cœur du projet, un défi cinématographique.
On se donne un mois pour réaliser un petit film de 3 minutes sur un thème qui est imposé et qui est choisi pendant la soirée Kino. Un mois après, donc le film est diffusé devant tous les kinoïtes. Et on revote pour un nouveau thème et on se relance dans la réalisation.
Pour Baptiste, co-créateur de l'événement grenoblois, pas besoin de s'appeler Clint Eastwood pour participer. Un peu d'envie et de curiosité suffisent.
L'idée, c'est qu'on a donné des papiers de couleur qui correspondent à des différents rôles. Donc on a le scénariste, réalisateur, acteur, technicien. Et chaque personne peut choisir son petit bout de papier, se balader avec et dire « moi, je suis technicien » ou « alors moi, j'ai envie d'expérimenter de la technique. Est-ce que vous avez besoin de moi ?» dans l'espoir qu'il y ait des groupes qui se forment et qu'il y ait des projets Kino qui soient réalisés.
La devise du mouvement né au Canada dans les années 2000 résume l'objectif de ces passionnés de cinéma. Faire bien avec rien, mieux avec peu, mais le faire maintenant.
Et si vous voulez participer, sachez que le thème du mois, c'est le mot « bloqué ». Début ce soir de la 26e journée de Ligue 1 de football. À 19h, Nice reçoit Brest. 2 heures plus tard, Lyon se déplace à Metz, à 5 jours de son choc en 8e de finale de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin. Depuis plus d'une semaine, les championnats du monde de biathlon réussissent aux Français. 5 médailles, dont 2 titres au compteur, de quoi attirer la lumière sur ce sport. Mélange de ski de fond et de tir à carabine, pourtant encore très élitiste avec seulement 1000 licenciés. Il est pourtant de plus en plus suivi à la télévision et les stations jouent sur cet engouement. Au col de Porte près de Grenoble, Benoît Almeras, l'école de ski propose une initiation.
Le soleil brille sur le stade de biathlon. Une demi-douzaine d'enfants enchaînent séances de tir et tours de ski de fond. Émile a 11 ans, il vient de Paris. Son père l'a inscrit.
Lui, il n'en avait jamais fait et comme on en regarde souvent à la télé, ça donnait envie.
C'est qui que t'aimes le plus ?
J'aime bien Emilien Jacquelin.
Pour ses copains, la star, c'est Martin Fourcade. Sa popularité fait venir les débutants au biathlon. Guillaume, moniteur à l'école du Col de Porte.
On a commencé avec une séance de biathlon sur toute la semaine et après, ça a été toutes les séances que de biathlon. Les gens étaient demandés de ça. C'est ludique et en plus c'est bien d'alterner des petits exos techniques au tir et puis un peu de ski, c'est sympa pour les jeunes.
Guillaume encadre les enfants sur le stand de tir. L'important, c'est la sécurité.
On n'a pas le droit de se balader avec la carabine n'importe comment. Le canon, il est toujours pointé vers les cibles. Okay.
Les ados tirent à la carabine à plomb sur des cibles à 10 mètres. Les plus petits, eux, utilisent un fusil laser sans danger. Maya, 9 ans, montre comment ça marche.
Il faut que tu appuies pour recharger tes 5 balles. Ensuite, il faut que tu appuies sur ce bouton-là pour prendre ta balle. Et après, il faut que tu appuies ici pour tirer. Tu dois regarder à travers ce trou, regarder la cible et après tu tires.
L'école du Col de Porte propose des cours de biathlon jusqu'à la fin de la saison hivernale.
Et les mondiaux se terminent ce week-end, les mondiaux de biathlon. Demain, ce sont les relais hommes et femmes. Dimanche auront lieu les Mastart, un format qui réunit les 30 meilleurs mondiaux.
Merci Antoine Loistron pour ces informations. On se retrouve en fin d'émission ?
Tout à fait, je serai là.
Microcité jusqu'à 17h.
Il est 16h39 sur Radio Campus, l'heure de notre dossier de la semaine. On parle des mèmes, un phénomène qui inonde Internet depuis des années, avec Adrien Beaujean et ses invités en studio. Mais avant ça, musique. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. C'était Don't Stop Me Now de Queen, évidemment. Vous écoutez toujours Microcité, on est ensemble jusqu'à 17h.
Le dossier.
Si je vous dis Grumpy Cat, Salt Bae ou encore Chuck Norris, vous vous demandez peut-être ce que tous ces termes ont en commun. Eh bien, ce sont des mèmes. Un mème, c'est une image, une personne ou une phrase culte. Le tout repris et tourné en dérision pour se moquer de quelqu'un ou d'une situation. Mais surtout, ce qui le définit, c'est que ça inonde Internet à une vitesse folle. Adrien Beaujean, vous êtes avec nous aujourd'hui pour décrypter ce phénomène qui existe depuis plus de 10 ans.
Oui, et tout à fait clair. Prenons par exemple cette musique. Un chat qui vole dans l'espace avec une traînée arc-en-ciel derrière lui et une musique bien énervante en fond, c'est ce qu'on appelle un mème. On a aussi des extraits de séries qui sont devenus cultes, comme dans Dexter.
Surprise, motherfucker.
Voilà, ça devient viral, c'est détourné, ça se propage sur le web et c'est ce qu'on appelle du coup un mème. Et donc c'est un phénomène qui se décline aussi près de chez nous et pour en parler justement, on reçoit les créateurs du compte French Chicago Meme sur Facebook et Instagram. Chaque jour, ils créent des mèmes locaux. Derrière le compte, ils sont 3, mais cet après-midi, ils sont 2 en studio avec nous. Le 3e est au travail. Donc Thomas, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes consultant en relations publiques et en communication. Et juste à votre gauche, Simon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pompier volontaire à Grenoble.
C'est bien ça.
Alors, hier, vous avez organisé une soirée un peu spéciale pour fêter vos 20 000 abonnés sur Instagram. Ce compte a été créé en août, votre page Facebook en avril. Il y a un engouement particulier. Comment vous l'expliquez ?
Je pense que c'est, on va dire, une recrudescence d'une demande en fait, d'humour local. Ça permet en fait, aux gens de rigoler sur des situations qu'ils vivent au quotidien. Et on s'est rendu compte, en fait, que l'engouement est parti, mais très, très vite. Et on a eu énormément d'abonnés parce que les gens, en fait, c'est ce qu'ils demandent, c'est rire sur des situations du quotidien. Et je pense que c'est ça que les jeunes, majoritairement, recherchent aujourd'hui.
Et en termes d'audience, du coup, c'est plutôt un public jeune qui vous suit sur Instagram ?
Bah, pas seulement, justement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des gens de tous les âges et qu'il y avait des personnes même plus âgées. On a même des personnes de plus de 60 ans.
qui sont venus nous dire qu'ils aimaient ce qu'on faisait. Et donc bah, nous, ça nous fait plaisir de voir qu'on arrive à toucher un petit peu toute la population grenobloise et pas forcément uniquement les étudiants ou uniquement les plus jeunes.
Ouais. Donc là, Simon, là, vous venez de parler de, justement qu'il y avait des gens de 60 ans aussi qui vous suivaient. C'est quoi ce qui leur plaît quand vous dites qu'ils aiment votre contenu? C'est quoi ce qui leur plaît? Du coup, c'est quoi vos contenus?
Bah, c'est qu'en fait, même eux arrivent à se reconnaître dans certaines publications qu'on fait. Et donc, dans ce qu'on poste, ils s'imaginent à la place du coup, des personnages qu'on met en situation. Et donc, c'est ça, en fait, l'objectif aussi de la page, quoi, de plaire à un maximum de gens de la région grenobloise.
Thomas,
j'allais demander, est-ce qu'on peut avoir un petit exemple de, je sais pas, un post récent pour voir à quoi ça peut ressembler?
Bah, par exemple, on avait mis, tu te rappelles, avec la voiture enneigée. Avec
oui, par exemple, on avait fait ça. C'était, on sait que, par exemple, Grenoble, il fait froid, et quand on prend sa voiture, on a souvent du givre sur son pare-brise. Et le matin, quand on est un peu en retard, on prend pas trop le temps, on gratte juste en fait avec la raclette la zone conducteur juste pour avoir sa petite fenêtre pour voir. Et on avait mis l'image de Shining quand il défonce la porte avec sa tête, et on avait remplacé en gros dans le trou de la vitre, on avait mis la tête. Et ça, c'est des choses que, par exemple, voilà, quelqu'un qui a 60 ans et qui a sa voiture et un jeune qui l'a aussi peuvent comprendre tous les deux, et c'est ça qui leur fait rire.
C'est des situations du quotidien qu'ils peuvent vivre, c'est ça?
Par exemple, oui, ou le tram, par exemple, on a l'habitude à Grenoble le matin, les trams sont souvent bondés, donc quand on parle des trams et qu'on met par exemple une image en Inde avec des milliers d'Indiens qui sont entassés sur un train et on compare ça au tram grenoblois, voilà, ça fait rire parce qu'en fait, c'est des situations qu'on vit tous les jours.
Et du coup, par exemple, ça c'est plus par rapport au nom, du coup vous avez pris le nom French Chicago même. Expliquez-nous ce choix, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs médias qui décrivent Grenoble comme le Chicago français, donc c'est quand même une image assez péjorative. Est-ce que vous, du coup, vous combattez en fait cette image, ou est-ce que c'est plutôt pour la tourner en dérision en fait?
Bah, nous en fait, le but c'est un peu de faire les deux, mais notamment de la tourner en dérision, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent justement sur Grenoble. Donc on a un préfet, et donc l'Alliance Police qui avait justement comparé Grenoble au Chicago français, et donc nous ça nous fait rire, et on sait qu'il y a eu quand même un engouement énorme autour de ça, donc on a profité de ça, et puis on sait que les gens adhèrent à l'image. Donc c'est aussi ça qui plaît aux gens, et on s'en est rendu compte, et c'est pour ça aussi que les gens nous suivent, et on essaye de faire des mèmes aussi en adéquation avec ce nom-là.
Et du coup, l'image du coup du Chicago français, c'est quelque chose que les gens du coup ils apprécient plutôt, ou c'est quelque chose justement dont ils ont un petit peu peur peut-être, Thomas?
Je pense que ça va un peu des deux. Je pense que les gens arrivent à se détacher de ces situations, enfin de ce nom-là, parce que ils vivent au quotidien dans Grenoble, donc ils se rendent compte que c'est pas non plus vraiment Chicago, il y a pas 800 morts par balle par an, mais qu'il y a quand même des choses qui se passent comparé à la taille de la ville, comparé à sa situation géographique. Et en fait, c'est surtout, enfin nous, on essaie plutôt d'en rire qu'autre chose. On n'essaie pas non plus de détériorer l'image de la ville. C'est juste voilà de prendre à la rigolade ce nom et puis d'en rire.
Donc là, ça m'amène sur un autre point un petit peu de notre dossier, sur la ligne éditoriale du coup. Vu qu'Internet, c'est très vaste, comment vous faites vos choix? Par exemple, parler de, voilà, vous l'évoquiez avant, parler du tram qui est bondé. C'est quoi du coup les limites que vous fixez dans votre ligne éditoriale?
Je pense qu'on ne se met pas de limites. On prend ce qui vient. Ça nous a fait rire, on va faire un mème dessus. Ça, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Enfin, on va essayer de trouver des sujets en fait, qui sont accessibles à tout le monde. On n'essaie pas de se limiter. On reste vraiment, notre ligne éditoriale, c'est de rire en fait. C'est de profiter et de s'amuser un peu de tout, de la vie du quotidien.
Ouais, c'est ça, tant que ça touche à Grenoble, en fait, ça peut être sur n'importe quel sujet. Après, on peut en parler entre nous, tout ça. Et une fois qu'on est d'accord, on poste, quoi. Sans limite.
Et en termes du coup de projet, là vous êtes trois, du coup comment en fait vous avez décidé d'un coup de se dire je vais m'investir du temps, investir peut-être même de l'argent dans les mèmes, peut-être Simon.
À l'origine de la page, du coup, c'est Thomas qui a créé la page, et moi du coup avec l'autre personne on est venu après, et en fait on se rend compte que les gens aiment, après nous on aime aussi faire des mèmes, et on essaye autour de ça de créer des activités, donc des soirées. Mais pas uniquement des soirées dans des boîtes de nuit, on a fait aussi soirée trampoline, soirée laser game. On essaye en fait de créer un lien entre les gens, entre les Grenoblois, qu'ils arrivent à rire des mêmes choses. On se dit qu'en fait ils arrivent à être ensemble, à passer une soirée, à s'amuser, à rigoler tous ensemble.
Et du coup ça crée une certaine forme de communauté en fait, c'est une communauté, ouais, qui vous suit sur les réseaux mais qui peut aussi vous suivre dans ce que vous organisez.
C'est ça en fait, on voulait essayer de mettre on voulait mettre en pratique en fait, de faire rencontrer justement ces gens-là dans la vraie vie, quoi. Et pour l'instant je pense qu'on n'y arrive pas trop mal.
D'accord. Donc là, en termes de statistiques, voilà, pour revenir un peu dessus, sur Instagram, vous avez 22 000 abonnés, c'est là, ça, à l'heure actuelle.
Ouais.
C'est par rapport à votre page Facebook, voilà, c'est lequel des deux réseaux sociaux sur lequel ça marche le mieux ?
Instagram qui marche le mieux parce qu'on s'est lancé du coup fin août, on a 22 000 abonnés, alors que Facebook c'est 15 avril 2019 et on est à 15 000. Et ouais, Instagram a marché très très vite en fait, parce que notamment parce que Facebook est de plus en plus délaissé par les jeunes. Et que du coup, et Instagram c'est plus un média visuel, alors que moi je trouve Facebook c'est plus de l'information, de la vidéo. Donc Instagram marche beaucoup mieux et je trouve ça aussi beaucoup plus convivial, dans le sens où on peut faire des stories, on peut parler aux gens, leur demander voilà, vous avez aimé la soirée, répondez-nous, envoyez-nous un message. Enfin, je trouve que c'est plus convivial et ça marche très bien.
Il y a plus d'interaction en fait.
C'est ça, ouais, voilà, il y a plus d'interaction que sur Facebook, mais Facebook est tout à fait aussi important et c'est pour ça qu'on y reste. Mais c'est vrai qu'Instagram marche mieux.
D'accord. Donc là, je rappelle, Thomas, vous êtes consultant en relations publiques et en communication. Là, je me tourne vers Simon, vous êtes pompier volontaire à Grenoble. Vous faites ça en complément du coup de votre activité professionnelle. Combien de temps ça vous prend en fait ?
En fait, moi j'étais étudiant jusque l'année dernière, donc j'ai fini ma licence TAPS. Et en ce moment, je suis pompier volontaire en attendant de passer le concours pour passer pompier professionnel. Donc pour l'instant, je suis uniquement pompier volontaire et du coup, je prends environ 3 gardes par semaine, qui fait environ 35 heures de travail par semaine. Donc après, ça, c'est quand même une énergie et un temps qui est énorme, et temps qui est énorme, mais c'est une implication qui est assez grande.
Mais il trouve le temps pour...
Et voilà, et c'est ce que je dis, c'est qu'à côté, ça nous laisse quand même largement le temps de travailler sur French Chicago même, et du coup, voilà, d'aider Thomas, d'aider Méziane, et de travailler tous ensemble pour avoir des idées tout le temps, et faire en sorte que ça se passe bien, d'organiser les événements, d'assister à tout ça, quoi, et de faire grandir la page, en fait, avec la communauté qui grandit avec, quoi.
Et justement, en parlant d'idées, comment on arrive à se renouveler une fois qu'on a peut-être abordé les plus gros clichés ? Comment on fait ? Est-ce qu'on se nourrit de l'actualité, par exemple, pour
Je pense que ce qui est fort avec les mèmes, c'est que c'est vraiment une source illimitée, parce qu'il y a toutes sortes d'images tout le temps, on peut toujours voir une image et ça nous fait penser à quelque chose, soit un sujet qu'on a déjà traité, soit même un nouveau sujet, une nouvelle idée qui va nous venir. Et après, bien sûr, on s'inspire aussi de l'actualité. Si on voit quelque chose qu'on va trouver rigolo, on va pouvoir rebondir dessus. Et voilà.
Là, peut-être en termes d'exemple précis, c'est quoi la publication qui a le mieux marché sur Instagram, par exemple ? Et ça concernait quoi ?
La publication qui a le mieux marché, je crois que c'est une publication sur le tram, où c'était, en gros, c'était les gens qui rentrent dans le tram et qui n'écoutent pas de musique, les gens qui rentrent dans le tram et qui écoutent leur musique et qui mettent leurs écouteurs, et les troisième catégorie de personnes qui rentrent dans le tram avec leur musique sur leur téléphone à fond. Et en gros, on avait mis un personnage qui devenait de moins en moins classieux, et donc du coup la personne qui écoute sur son téléphone à fond et qui se nourrisse tout le tram alors que le tram n'a rien demandé, on l'avait comparé à quelqu'un de pas très classe, quoi.
Pas très classe, c'est ça.
Ça avait bien marché parce que ça arrive tout le temps en fait.
Et peut-être en termes d'image aussi, pour l'instant vous avez une audience, vous avez 22 000 personnes qui vous suivent. Si ça commence à s'accroître, comment, par rapport aux droits d'auteur avec les images, comment ça se passe un petit peu ? Est-ce qu'il y a une réglementation particulière avec Instagram ou...
Alors, c'est très compliqué sur au niveau des mèmes, en fait, parce que même les gros, gros comptes qui ont des centaines de milliers d'abonnés n'arrivent pas à se faire certifier comme compte pro, entre guillemets, par Instagram. Donc, on ne sait pas vraiment comment la tournure des événements que ça va avoir. Pour l'instant, on est tranquille. Après, peut-être qu'il va y avoir des mesures qui vont être prises en place dans le futur, mais pour l'instant, c'est free, il n'y a aucune limite.
D'accord. Peut-être le mot de la fin, parce qu'on va bientôt devoir clore ce dossier. En termes de message politique, quand on a une audience comme ça, à l'approche des municipales, est-ce qu'on peut avoir un poids, justement, sur les gens qui nous suivent ou pas ? Peut-être, Simon ?
Nous, on essaye de faire en sorte quand même de rester le plus neutre possible, même si parfois on nous reproche certaines choses, mais nous, on reste quand même en dehors de ça. Le but, c'est pas de devenir une page politisée. Donc si parfois ça nous arrive de faire des posts contre le maire, c'est le fait que ce soit le maire actuel qui est en place. C'est tout. Enfin, nous, on a pas de message politique à faire passer, justement.
D'accord. Et peut-être, Claire, une dernière question, le mot de la fin ?
Le mot de la fin, c'était de vous remercier.
Merci à vous, en tout cas.
Merci d'accepter d'être en studio. Merci, Adrien Beaujean. On a compris que, du coup, les mèmes, en tout cas, French...
Chicago mèmes, pardon.
C'est pas que c'est l'humour rire du quotidien de la vie des Grenoblois, mais c'est aussi une manière d'affirmer son identité locale, finalement.
Exactement.
Ouais, c'est ça.
Eh bien, super. Merci beaucoup.
Microcité sur Campus Grenoble 90.8.
16h54 sur Microcité, épisode final, il nous reste encore quelques minutes ensemble. On célèbre aujourd'hui un an de travail sérieux, consciencieux, appliqué. Les 8 étudiants en journalisme que nous sommes avons tout donné cette année. Et Paul Tillier, il faut dire que l'on partait de loin.
Oui, forcément, quand on commence la radio et qu'on n'a pas les codes, apprendre à dire bonjour au micro, c'est la première étape.
6h12, l'actualité avec Zoé Ruffy.
C'est ça, bonjour.
Bonjour.
Le Flash avec Adrien Beaujean. Bonjour Adrien.
Bonjour Benoît, bonjour à tous.
Et oui, difficile parfois de ne pas accrocher sur certains mots, c'est aussi ça la radio. Mais il faut dire qu'il y en a qui sont plus durs à prononcer que d'autres.
Sébastien Vaanima a été... Bon, non.
Quel enfer.
C'est si... Ah putain, on est bien là ou pas?
Non, je vais trop vite. Prochain objectif...
Ah putain!
Un petit peu fort quand même. Hein, on va peut-être s'envoyer un peu parce que sinon on va se faire chier.
Il faut donc faire comme Antoine Loistron, notre expert linguiste en fafatage, qui a dû batailler tout au long de l'année pour prononcer correctement le nom de notre président.
Emmanuel Macron. Emmanuel Macron en visite dans les Alpes dès ce soir. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dans l'océan Indien. Deuxième étape. Déclaration d'Emmanuel Macron ce midi. Les négociations à suivre compliquées.
Et oui, compliquées comme l'exercice de l'interview. En radio, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est dire d'accord à l'interlocuteur une fois qu'il a fini sa phrase. Il faut simplement lui signifier que l'on a compris par un signe de tête. Et ça, Adrien Beaujean l'a très bien saisi.
D'accord, d'accord. Donc là, on est d'accord. D'accord, 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 d'accord. Et est-ce que pour l'instant, vous estimez que... D'accord, d'accord. Peut-être une dernière question. D'accord.
La radio, c'est aussi beaucoup d'exigences, notamment sur la voix. C'est l'outil de travail, il faut donc la préserver à tout prix. Margot Siffert, par exemple, sa voix, normalement, ça donne ça.
Le bilan continue de s'alourdir en Chine, 6 personnes ont...
Mais après une nuit un peu arrosée, ça donne plutôt ça.
Les Brexiteurs sont encore loin de pouvoir sabrer le champagne. Le destin de l'accord est désormais...
Mais parfois, malheureusement, même lorsque l'on dort bien et que l'on se concentre, rien n'y fait, ça ne marche pas.
On termine avec du foot ce soir. Sa qualification pour le 8e de finale de la Ligue des Champions. Les Lyonnais affronteront les Amants de Leipzig à 21h. J'ai vraiment...
Face à si peu de sérieux, Claire Guédon a même failli nous quitter et vivre de sa passion, les mots croisés.
Cruciverbiste en herbe, je suis au championnat du monde, là ça se présente extrêmement mal pour le trio Tillier Guédon Almeras. C'est compliqué.
Finalement, le plus important, c'est vraiment de ne jamais lâcher. Pour preuve, écoutez, aujourd'hui, le niveau d'excellence et de professionnalisme qui a été atteint.
Elle a arrêté sa vente de billets, une annonce pas vraiment surprenante pour le secteur aérien, Zoé Ruffy.
Eh bien, pas vraiment, Claire.
Ça fait deux fois pas... Non mais ça fait deux fois pas vraiment...
Non, ça ne va pas du tout.
On va le refaire.
Non, mais on abandonne ce truc. J'en peux plus.
Zoé Ruffy, est-ce que cette annonce est surprenante pour le secteur aérien?
Eh bien, pas vraiment, Claire. Ça faisait des années qu'XL Airways recherchait...
Je t'ai vu rigoler. On l'a fait faire.
Voilà, vous avez maintenant toutes les astuces essentielles pour réussir votre carrière en radio. Et ça, ça mérite bien une petite coupe de champagne.
Eh bien, merci Paul Tillier pour...
Antoine
tout... Merci Paul Tillier pour tous ces bons conseils et pour nous donner une... pour donner une très belle image de nous à tous nos auditeurs. Et on retrouve Antoine Loistron pour les rappels des titres de l'actualité.
C'est le début de la fin pour Fessenheim. Le premier réacteur de la centrale s'arrête cette nuit. Le deuxième suivra le 30 juin. Mais il faudra encore du temps pour le démantèlement complet. Ça durera au moins jusqu'en 2040. Le temps d'évacuer les déchets et de démonter tout le bâtiment. Le milieu du sport invité à prendre des initiatives pour lutter contre les violences sexuelles. La ministre des Sports recevait aujourd'hui les présidents des fédérations. Roxana Maracineanu veut mettre l'accent sur la prévention. Des outils seront mis en place pour mieux recueillir la parole des victimes. Et c'est un serviteur de la République comme le décrit Emmanuel Macron qui est parti. Michel Charras est décédé cette nuit à l'âge de 78 ans. Il fut ministre du budget de François Mitterrand, mais aussi maire de la commune de Puy-Guillaume dans le Puy-de-Dôme,
non.
Puis membre du Conseil constitutionnel.
Non.
Merci beaucoup Antoine Loistron. Et voilà, c'est la fin de cette émission et de cette saison de Microcité.
Microcité.
On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter.
Écoutez.
Que nous à réaliser toutes ces émissions.
Émissions.
On vous remercie de votre fidélité.
Fidélité.
On espère que vous vous souviendrez de nous. En tout cas pour nous, la radio, c'est pas fini.
Pas fini.
D'ici peu, vous pourrez nous retrouver sur les meilleures radios de France.
Inch'Allah.
Je tiens à remercier Louis Oscovin qui nous a accompagnés à la technique toute l'année.
Mach'Allah, Louis.
Et qui a eu la patience de nous supporter.
Hein. Oui, oui, oui.
Et bien sûr, je remercie toute l'équipe, la rédaction de Microcité pour le travail fourni cette année.
Yes, I.
Le podcast exceptionnel de cette émission sera en ligne d'ici quelques jours sur le site campusgrenoble.org.
90.8.
Et en attendant que nos poulains reprennent le flambeau en septembre, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end. Et surtout, en attendant, portez-vous bien.
Portez-vous bien.